France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis Keith Jarrett, vous entendez piano, piano et jazz. Mais l'artiste joue aussi de la batterie, de la flûte, des cymbales, du tabla indien, de la guitare, de l'orgue, du clavecin. Il compose pour cuivre, pour orchestre symphonique, une musique qui n'a pas grand-chose à voir avec le jazz. Keith Jarrett compose, improvise, revisite les standards en solo, duo, trio... Quartet, il n'est jamais là où on l'attend, comme s'il s'ingéniait à égarer et surprendre son public. C'est ce que révèle la monographie que vient de lui consacrer Jean-Pierre Jackson, mon invité. Keith Jarrett de Jean-Pierre Jackson, publié par Actes Sud. Le tout début du Köln Concert, le concert de Cologne, le 24 janvier 1975, Keith Jarrett au piano, bien évidemment. Bonjour Jean-Pierre Jackson.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur de cette monographie consacrée à Keith Jarrett qui vient de paraître chez Actes Sud et chez le même éditeur. Vous aviez auparavant écrit des livres consacrés à Charlie Parker, à Miles Davis, Oscar Peterson, Benny Goodman et également la discothèque idéale du jazz et par ailleurs, vous tenez la rubrique jazz du magazine mensuel Classica. Alors, l'extrait de ce Köln Concert que je viens de faire entendre, c'est ce par quoi vous ouvrez votre récit consacré à Keith Jarrett. Il a alors 30 ans et pour beaucoup, en tout cas moi le premier, c'est le disque par lequel on découvre, on a découvert l'art de ce pianiste et compositeur.
Oui, c'est normal. Il faut dire que il illustre assez bien, au fond, ce qu'est une œuvre musicale qui relève de l'œuvre d'art. Je crois que si on fait l'inventaire des conditions conjoncturelles qui ont vu naître ce concert, où après un repas épouvantable, un trajet en Volkswagen, et après n'avoir pas dormi pendant 2 jours, avec un piano où une pédale ne marchait pas, l'accord n'était pas bon, etc., etc., tout prévoyait,
ça ne pas marcher,
une catastrophe.
Oui, voilà.
Voilà, ou du moins, en tout cas, un concert largement oubliable. Et peut-être à cause précisément de ces conditions défavorables, pour le moins, il y avait une décontraction, une désinhibition totale, qui fait que, bon, bah, de toute façon, ça peut pas être pire. Et je crois que ça s'entend. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons l'écouter aujourd'hui, 75-2019, ça représente quand même plus de 40 ans, et il a gardé absolument la même fraîcheur. Et moi, je me souviens l'avoir écouté dans une voiture au Japon, en allant voir la tombe du cinéaste Ozu, et il y avait un accord entre la musique qui était diffusée dans cette voiture et le paysage, alors que sur la scène du théâtre de Cologne, certainement que dans l'esprit de Keith Jarrett, il n'y avait pas le Japon, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas... voilà. Et il y avait un accord. Autrement dit, malgré les conditions conjoncturelles désastreuses, cette musique a emprisonné, au fond, quelque chose, un mystère qui résiste à l'épreuve du temps. Mmh. Et c'est pour moi le critère fondamental de ce que peut être une œuvre d'art. Et je pense que dans un siècle, alors que les conditions vraiment auront totalement changé, cette musique conservera tout à fait son élan et sa fascination. Quoi. Mmh, mmh.
Jean-Pierre Jackson, quelques vraiment très courts éléments biographiques. Keith Jarrett, né en 1945 en Pennsylvanie. Apparemment, enfant prodige, il se met très vite à la musique. À 3-4 ans, il joue déjà, il commence à peine déjà à composer. Premier concert à 7 ans. Il apprend le répertoire classique également. Je voudrais savoir, en quelques mots, avec quoi s'est-il construit, disons, entre 10 et 20 ans, avec quoi a-t-il nourri son imaginaire musical, Keith Jarrett?
Alors, il y a un élément très important qui, en général, par exemple, dans les biographies américaines, fait l'objet d'un tout petit paragraphe, et qui, pour moi, est un élément essentiel, c'est l'acquisition du Real Book. Mm-hmm. Alors, le Real Book, c'est l'équivalent, si vous voulez, pour un musicien classique, des œuvres complètes de Beethoven. C'est-à-dire que lui qui était habitué à faire du piano en tant qu'enfant prodige, mais enfin ça tenait du talent de société, sans conséquences vraiment importantes dans la vie sociale. Et là, il découvre, sous la même forme écrite, et c'est là où ça l'a totalement bouleversé, le jazz, mais sous une forme écrite, de partition, donc sous une forme, je dirais, sérieuse, et qui fait que les parents, ensuite, ont voulu lui donner des leçons, etc., puisque le jazz étant écrit, ça pouvait être considéré comme une musique sérieuse. On parle de Allentown en Pennsylvanie, fin des années 50. Donc, on peut pas dire que ça soit un haut lieu culturel. Et il y avait besoin de cette respectabilité. Et Keith Jarrett, avec le Real Book, a eu accès à tous les standards de jazz. On verra que plus tard, évidemment, cette connaissance des standards va influencer beaucoup son parcours musical. Et non seulement les standards du jazz qui lui permettent aussi d'avoir un langage commun avec tout autre musicien qu'il peut rencontrer, mais aussi des musiques comme la bossa nova, les musiques afro-cubaines, etc., etc. Donc un élargissement et une révélation.
en août 1968, Old Rag, une composition de Keith Jarrett, avec Keith Jarrett au piano, Charlie Haddon à la contrebasse et Paul Mossian à la batterie. Jean-Pierre Jackson, là, on a l'impression que c'est pas du tout le même musicien que celui du Cole Concert.
Non, c'est ce qu'on pourrait appeler une pièce pittoresque. Mais en réalité, c'est intéressant aussi par rapport à la biographie de Keith Jarrett, car lorsqu'on fait l'inventaire de ses influences pianistiques, on cite évidemment Bill Evans, Paul Bley, André Previn, Dave Brubeck, etc., etc. Mais on oublie Scott Joplin. Or, dans un interview, dans un qu'on appelle un blindfold test aux États-Unis, il a dit que dans les disques qu'il emmènerait sur l'île déserte, en premier, il emmènerait Scott Joplin. Mm-hmm. Scott Joplin, c'est l'inventeur, on peut dire, du ragtime au début du XXe siècle. Et Keith Jarrett a toujours eu une fascination pour cette manière de jouer enjouée, roborative du piano. Et il lui a rendu hommage à plusieurs reprises, notamment, vous savez, dans les concerts, à la fin, on fait un encore, un rappel. Et très souvent, il a fait comme ça une petite pièce en ragtime, en rappel. Et ça n'est pas seulement anecdotique, c'est aussi une révérence à un état de la musique au début du XXe siècle, et aussi aux lectures qu'il faisait à l'époque des penseurs du début du XXe siècle. Il a toujours eu une fascination pour ce moment entre, disons, 1900 et 1920, où les penseurs, la musique... Par contre, il ne s'est jamais penché sur le phénomène de la fanfare ou de la marche militaire, alors que à Allentown en Pennsylvanie, c'était un phénomène musical très courant. Ça, c'est très curieux. À vrai dire, j'ai pas d'explication pour ça. Mais le ragtime, oui. Et ça, dès le début, il a appris très jeune les ragtime, The Entertainer, Maple Leaf Rag et tout ça. Il les a appris sur un piano d'occasion, acheté $50 dans une vente aux enchères par ses parents. Et il dormait d'ailleurs la nuit contre le piano.
Extrait du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, c'était le prélude des fugues en la majeure sous les doigts de Keith Jarrett au piano. Jean-Pierre Jackson, alors le Köln Concert, un rag, et puis maintenant Bach, on voit quand même que l'univers esthétique et intellectuel de Keith Jarrett est vraiment très très large, très ouvert. On voit que c'est un compositeur, enfin un musicien ouvert sur différentes cultures.
Je crois que vous avez raison de dire un compositeur, car moi je pense vraiment, après avoir écouté beaucoup de ses musiques, que c'est un compositeur qui joue du piano plutôt qu'un pianiste qui par ailleurs compose.
Ce que vous dites, page 118.
Voilà, c'est-à-dire que dès le début, dès l'enfance, il ne sépare pas l'improvisation de la composition. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment bien compris pourquoi on opposait les deux. Ça, je tiens beaucoup à cette question-là, c'est qu'une improvisation, lorsqu'elle est réussie, elle relève de la composition spontanée. Quand les jazzmen ont fait des grandes improvisations, qui sont devenues légendaires, que tout le monde copie, reprend, etc., eh bien, elles sont écrites en partition et elles sont dans les écoles de musique, c'est-à-dire qu'elles relèvent, au fond, de la composition. Mmh. Or, elles ont été totalement improvisées. Je vous rappelle, par exemple, que le Köln Concert, on peut trouver la partition. Elle a été éditée en partition. Donc, la frontière entre l'improvisation et la composition, c'est la même chose, c'est parce qu'il y a également beaucoup de compositions, notamment chez Chopin ou chez d'autres, qui sont en fait des improvisations transcrites. C'est-à-dire, on se met au piano, on laisse aller, on improvise un prélude, un nocturne, etc. Et puis, on le couche sur le papier. Et là encore, la frontière entre l'improvisation et la composition. Et donc, Keith Jarrett étant compositeur, il essaye de composer dans toutes les voies ouvertes de la musique. C'est-à-dire, aussi bien du piano solo jusqu'à l'orchestre symphonique. Il a fait de grandes créations pour orchestre symphonique accompagné avec piano, accompagné avec saxophone, etc., etc. Donc, il a une vision extrêmement large et j'allais dire globalisante de la musique parce qu'il pense qu'elle doit régner en maîtresse et sous toutes ses formes. Et ça, c'est une vision quasiment métaphysique de la musique que peu de musiciens de jazz en particulier partagent. La plupart se contentent d'improviser à partir de structures d'un grand harmonique et puis on fait le métier. Je crois que Keith Jarrett a une dimension tout à fait exceptionnelle qui d'ailleurs le rend détestable à beaucoup de gens qui le trouvent prétentieux, insupportable, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'entends.
Et on sent, enfin en tout cas à la lecture de votre livre, Jean-Pierre Jackson, une énorme exigence de la part de cet artiste, qui le rend effectivement peut-être d'un commerce pas toujours facile. L'expérience auprès de Miles Davis n'a pas été très très fructueuse apparemment.
Auprès de d'ailleurs personne, de Art Blakey, de Charles Lloyd, parce que fondamentalement ça n'est pas ce qu'on appelle en jazz un sideman. C'est un compositeur dans l'âme, et donc pour lui, se mettre au piano consiste à développer autant que possible de la composition spontanée et non pas faire le métier avec les enchaînements habituels, alors 1, 4, 5, les degrés 1, 4, 5 de la gamme, etc. Et il fait pas le métier, voilà. Et les musiciens, évidemment, le supportent mal.
Et est-ce que c'est, Jean-Pierre Jackson, dans ces années 70, donc le concert de Cologne, c'est 75, que vraiment, il va commencer à se faire connaître. Il y a la fondation de son quartet américain en 71, puis après en Europe, dans les années 74, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, il aura un quatuor de part et d'autre de l'Atlantique. Ouais. Est-ce que c'est dans ces années-là où vraiment il s'est fait connaître?
Eh bien, curieusement, le Köln Concert a eu un impact. C'est-à-dire que si on compare, parce que tous les enregistrements ne sont pas publiés officiellement, mais enfin, on peut les avoir quand même, parce que c'était au cours de toute une tournée. Et si on écoute les enregistrements avant le Köln Concert et les enregistrements après le Köln Concert, notamment celui de Paris, qui clôturera la tournée de 75, eh bien, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu qu'il avait accès, avec son piano, à un langage musical qui n'existait pas avant lui. Parce que la tradition du piano solo dans le jazz, elle remontait à Art Tatum, mais c'était vraiment thème et variation. Chez Keith Jarrett, c'est pas thème et variation. C'est « je me jette dans le grand bain et j'essaie de ne pas couler ». Thank you.
In the Cave, In the Light, extrait de l'album In the Light de Keith Jarrett, qui était au piano, au gong, aux percussions, accompagné des cordes de l'orchestre symphonique du Südfunk de Stuttgart, un enregistrement de 1973. Jean-Pierre Jackson, vous écrivez « Le monde est prévenu, Keith Jarrett est inclassable ». En effet, au fur et à mesure, différentes œuvres qu'on écoute depuis le début de cette émission, c'est quand même difficile de trouver un point commun. On se demande si c'est vraiment le même artiste qui est derrière tout ça.
Eh bien, c'est justement ça, je crois qu'il a tout au long de sa vie essayer d'être insaisissable.
Mais c'est une volonté ou c'est parce que c'est ce goût de la découverte, de l'expérience ?
Je crois que c'est la conséquence de sa conception de la musique. Et la question des frontières en musique relève davantage des questions de marché, des questions de classement intellectuel, davantage que de la réalité musicale elle-même. D'ailleurs, les musiciens eux-mêmes, en tout cas les bons, ont toujours considéré que la musique était une et indivisible. En fait, elle est divisible, mais artificiellement. Mais fondamentalement, elle est le chant de l'humanité, point. Mmh. C'est-à-dire que qu'on s'exprime avec un biniou, un sifflet à roulette, qu'on crée une œuvre provisoire, pittoresque, qui va disparaître tout de suite, ou qu'on crée la Missa Solemnis, eh bien, c'est le même langage. Et les grands jazzmen, les grands interprètes classiques sont sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas ces questions de frontières. Des gens comme Horowitz allaient écouter Art Tatum et l'admiraient profondément. Et inversement, Art Tatum était capable de jouer Jean-Sébastien Bach. Mmh. Les classifications relèvent du marché essentiellement parce que le marché doit être captif pour être rentable.
Charlie Haddon à la contrebasse, Keith Jarrett au piano qui reprenait un standard de Kern et Hammerstein. Don't ever leave me. Et Jean-Pierre Jackson fait comme ça. Ça a l'air tout seul, cette musique, si belle.
Oui, bien, il faut avoir beaucoup joué, beaucoup tenté de choses pour parvenir à ce qu'est le au fond le plus difficile, c'est-à-dire la simplicité, d'arrêter de faire du démonstratif, de croire qu'il y a un enjeu capital. Non, juste faire de la musique comme on fait du café, quoi. Ça, c'est très difficile à faire. Il faut oublier beaucoup, et c'est très difficile d'oublier beaucoup quand on a beaucoup joué.
Oui, 150 CD, la discographie de Keith Jarrett, plus une centaine de plus ou moins pirates.
De bootleg, oui, ouais, c'est voilà. Ça. Il reste énormément de disques, enfin d'enregistrements à publier. Là, à la fin du mois, il y a ECM qui sort un concert de 2016 et il y en aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, je l'espère, puisque ça montrera qu'il n'a cessé d'interroger la musique et qu'elle lui a souvent répondu.
Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Jackson. Je rappelle le titre de votre livre, tout simplement. Keith Jarrett, qui vient de paraître chez Actes Sud. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Christine Amado, à la technique Marie Le Peintre, attachée de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Louis Bilodeau et nous parlerons de Jacques Offenbach. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.